Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Lire dans l'alignement des astres le destin de l'humanité tout entière, voilà une pratique qui aujourd'hui prête plutôt à sourire. L'astrologie est devenue en grande partie un produit commercial, dont on se sert pour vendre des horoscopes, des consultations en tout genre, et dont la précision et la véracité sont au moins grandement contestables. Elle est en tout cas bien loin de la majorité de nos pratiques religieuses, et n'a évidemment aucune influence sur l'Église ou la politique. Ce ne fut pas pourtant toujours le cas. L'astrologie était autrefois vue comme une science de la nature, à la valeur épistémologique réelle. Contrairement aux prophètes, les astrologues de la fin du Moyen-Âge ne prétendent pas avoir des pouvoirs d'origine divine. Ils sont vus comme des savants, des scientifiques à la pointe du savoir. Les deux tentent pourtant, sans succès, de prédire l'événement ultime, la fin du monde. Cette pratique vraisemblablement païenne se mélange notamment au XIIe et au XIIIe siècle aux pratiques de l'Église catholique, à tel point que des figures comme le cardinal Pierre d'Ailly écrivent des traités d'astrologie, convaincus de l'influence de l'alignement des astres sur le destin de notre monde. C'est donc du rapport entre l'astrologie et la fin des temps que traite ce numéro des Chemins de la connaissance de Gérard Gromaire, avec l'historien Jean-Patrice Boudet, diffusé pour la première fois le 22 juillet 1992.
La fin du Moyen-Âge, disons la deuxième moitié du XIIIe siècle, le XIVe, le XVe siècle, semble vivre avec l'idée que la fin des temps est proche, que l'Antéchrist ne saurait tarder, l'Apocalypse est redoutée et attendue dans une sorte de compte à rebours très sombre. On voit se multiplier les messages, les sermons, les textes à caractère eschatologique, c'est-à-dire qui annoncent la fin des temps, les textes pénitentiels, millénaristes. L'époque connaît la guerre, la famine, les épidémies. L'Église est en crise, la menace du grand schisme se précise. Et on sent partout un besoin de rénovation, de refonte du monde, un désir aussi de croisade, de conversion des infidèles, des hérétiques. L'Occident est confronté à l'autre, à l'altérité notamment du monde musulman. Or, sur cette scène de l'histoire où se joue le destin de l'humanité, toutes les énergies semblent devoir se mobiliser pour intervenir sur le cours des événements, pour l'expliquer, pour mesurer ce cours des événements et pour prévoir, pour prédire l'avenir. En fait, cette fonction de prédiction de l'avenir et de spéculation sur la fin des temps est confisquée, semble-t-il, par deux types de discours, la parole prophétique et le discours astrologique. On peut se demander qui occupe le devant de la scène de l'histoire, l'astrologue, le prophète, est-ce qu'ils sont rivaux, est-ce qu'ils sont complémentaires? Jean-Patrice Boudet, peut-on tracer une ligne de démarcation entre astrologie et prophétie?
Oui, on peut dresser une ligne de démarcation, en tout cas les astrologues eux-mêmes, peut-être pas les prophètes, mais les astrologues eux-mêmes, traçait une ligne de démarcation en disant que la prophétie pour eux est un don d'origine divine, que donc les véritables prophètes, il y en avait dans l'Antiquité, mais il n'y en a pour ainsi dire plus après, à quelques exceptions près, peut-être Merlin, ou des personnages tout à fait extraordinaires et mythiques de ce genre, alors que l'astrologie, pour eux, même s'ils sont astrologues, et justement parce qu'ils sont astrologues, et peut-être parce qu'ils ont peur du bûcher ou d'autres formes de répression qui pourraient s'abattre sur eux, l'astrologie pour eux est simplement un art, une science de nature humaine, et n'a rien à voir justement avec la prophétie ni la divination. C'est justement le problème de la confusion possible entre prophétie et divination qui amène les astrologues à une sorte de modestie dans leur position relative aux deux formes de prédiction qui s'opposent, selon eux, entre astrologie et prophétie.
Je veux dire donc, au fond, que les oppositions, les rapprochements entre astrologues et prophètes, c'est une question de vocabulaire, de définition même des termes de prophétie.
C'est une question de, non seulement de vocabulaire, c'est une question de statut de ces deux formes de prédiction vis-à-vis de l'orthodoxie chrétienne. Et je crois que c'est un problème fondamental. Si les astrologues ne veulent pas se prétendre prophètes, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire de ce qu'ils estiment ne devoir être su que par Dieu, c'est-à-dire la fin des temps, une sorte de science exacte. Pour eux, il ne peut y avoir de prédiction de l'avenir, et particulièrement de la date de la fin des temps, que d'une manière conjecturale, pour la plupart des astrologues. Ceci dit, ça c'est la position théorique, je dirais, d'un certain nombre d'astrologues purs et durs, qui sont des astrologues, astronomes, médecins, qui sont de véritables savants. Mais il y a, par ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, une vulgarisation de l'astrologie dans la quasi-totalité des couches cultivées de la société, qui fait que dans les esprits, par rapport à cette opposition théorique que je viens de décrire brièvement, il y a en fait toute une série de ponts, de juxtapositions possibles, voire de convergences qui sont possibles dans les esprits et à tous les niveaux entre astrologie et prophétie. Il y a toute une littérature, disons, astrologico-eschatologique, pour employer un mot barbare, mais relativement précis concernant ce qui se produit effectivement, qui existe.
Oui, parce que c'est une situation quand même assez paradoxale. On a le sentiment que les astrologues ont un statut, vous l'avez dit, par rapport à l'université, par rapport donc aussi aux théologiens. Et néanmoins, l'Église, elle ne peut que considérer l'astrologie comme une superstition, parce qu'elle vient des Grecs, des Arabes, je pense aux astrologues dans la proximité des califes à Bagdad. Donc, c'est quand même un domaine qui peut être considéré comme appartenant au paganisme, non ? Du point de vue de l'Église ?
Du point de vue de l'Église, oui, dans une large mesure, mais l'Église n'est pas une entité aussi unie et, je dirais, monolithique que l'on pourrait le croire. Et il ne faut pas oublier qu'au XIIe et XIIIe siècle, ceux qui ont diffusé dans l'Occident chrétien, ou qui ont en tout cas largement contribué à diffuser dans l'Occident chrétien l'astrologie, sont aussi des hommes d'Église.
Des astrologues qui sont des catholiques.
Absolument. Un exemple, c'est le plus connu, mais c'est très loin d'être le seul, c'est Pierre Dailly. Pierre Dailly, qui a été donc chancelier de l'Université de Paris à l'époque du Grand Schisme, qui a joué un rôle très important dans l'Église, qui a failli être pape, qui était évêque de Cambrai, qui a écrit l'Imago Mundi, ce fameux traité de cosmographie qui a été si célèbre pendant tout le XVe siècle et qui a été lu notamment à la fin du XVe siècle par Christophe Colomb, et qui a écrit aussi une trilogie relative à ce qu'il appelle la concordance entre l'astronomie, mais l'astronomie dont il parle est en fait l'astrologie, la théologie et l'histoire. Et c'est une somme, donc, de trois traités convergents tendant à prouver qu'on peut découvrir la date approximative de la fin des temps grâce à la prophétie, grâce à l'histoire qui nous donne la date de la création du monde et qui nous donne une chronologie, des chronologies d'ailleurs contradictoires dans lesquelles le pauvre Pierre Dailly est obligé de se débattre, pour savoir combien de temps l'histoire a duré et donc combien de temps elle risque de durer en fonction d'une durée du monde qu'on estime tout à fait fini et déterminable. Hein, en l'occurrence, la durée du monde censée être la plus probable est de 7000 ans. Cette croyance dans la durée du monde fixée à 7000 ans est une croyance tout à fait courante à la fin du Moyen-Âge parmi les hommes d'Église. Et donc l'astrologie. Donc, si vous voulez, le problème est beaucoup plus complexe que cela, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté fondamentale dans le statut de l'astrologie qui fait que les hommes d'Église peuvent accepter l'astrologie à condition que l'astrologie soit déterministe, mais surtout pas fataliste. C'est-à-dire que...
C'est la question du libre-arbitre.
C'est le problème du libre-arbitre au niveau individuel, et surtout du point de vue de l'avenir collective des hommes, il est tout à fait possible de prévoir grossièrement cet avenir dans la mesure où Dieu peut toujours intervenir pour modifier l'ordre des choses.
On trouve quand même des affirmations du pouvoir des astres sur la trajectoire même des religions. Et là, il y a quand même quelque chose qui, du point de vue de l'Église, ne peut être que scandaleux.
D'une certaine partie de l'Église, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, la thèse que l'on trouve dans l'astrologie arabe, notamment dans le fameux traité sur les grandes conjonctions d'Al-Boumazar, qui ensuite a été diffusée en Occident à partir du XIIe siècle, puis au XIIIe siècle a été réinterprétée par Roger Bacon, cette thèse a suscité bien des remous au sein de l'Église. Ceci dit, Roger Bacon était lui-même franciscain, et il a adressé ce traité dans lequel il parle justement de cet horoscope des religions, n'est-ce pas, de l'influence des planètes sur l'avenir des religions, il adresse ce traité à qui ? Au pape Clément IV. Il ne faut pas s'imaginer que l'Église réfute systématiquement l'influence possible des astres sur la religion dans la mesure où les hommes, pour les gens d'Église, sont dépendants aussi des forces de la nature. Et ça, personne ne le conteste. Tout le problème est de mesurer exactement l'étendue et la nature précise de cette influence des astres. C'est là-dessus que le débat existe. Mais sur la réalité de l'influence des astres, y compris sur les religions, finalement, presque tout le monde est d'accord.
On va revenir sur ce point, mais du point de vue sociologique simplement, ce sont les astrologues qui sont plus nombreux que les prophètes quand même.
Ce n'est pas forcément vrai. A priori, la présence des astrologues dans la société politique de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance est en quelque sorte officialisé par le fait qu'il existe un poste d'astrologue du roi ou du prince, etc. Alors que, à ma connaissance, les prophètes de cour, s'ils existent, leurs fonctions ne sont pas, en général, officialisées d'une façon permanente. Ceci dit, il peut y avoir des exceptions, et ce qui compte, ce n'est pas forcément ce qui est officiel, mais c'est ce qui relève de la réalité quotidiennement vécue. Prenons un exemple très concret. À la cour de Charles VIII, à la fin du XVe siècle, vous avez des prophètes de cour qui ne semblent pas, à première vue, avoir une présence véritablement officialisée à la cour, notamment François de Paule, le fameux ermite de Calabre que Louis XI était venu chercher alors qu'il était très malade et dont il espérait avoir un prolongement qu'il n'a d'ailleurs guère obtenu de sa pauvre vie. Ce François de Paule était effectivement un prophète de cour qui a joué un rôle politique tout à fait considérable.
Ermite à 15 ans aussi,
n'est-ce pas,
personnage extraordinaire.
Personnage extraordinaire qui a joué un rôle tout à fait fondamental, notamment au moment de l'expédition d'Italie à partir de 1494. Vous avez par ailleurs un astrologien du roi. Vous en avez même plusieurs. Vous en avez un officiel qui est fort mal payé et qui semble avoir un rôle tout à fait secondaire par rapport à François de Paule. Et puis vous en avez un autre, un astrologien, si j'ose dire, occasionnel, qui lui a joué un rôle peut-être plus important, mais qui justement, pour avoir voulu jouer un rôle plus important, a eu de gros ennuis, justement, avec l'Église et avec le Parlement. Il existe, en tout cas en France, à la fin du XVe siècle, une sorte de rivalité entre prophètes et astrologues, qui est une rivalité à la fois religieuse et politique.
Alors vous avez parlé de ces textes qui traitent de la concordance entre astrologie, théologie. Autrement dit, l'astrologue non seulement s'appuie sur le cours et l'influence des astres et des phénomènes naturels, mais aussi sur le texte de la Bible.
Tout à fait. Ce qui pose des problèmes, parce que le texte de la Bible, naturellement, il est interprété d'une façon souvent très divergente.
Et rétroactive, sans doute.
Et rétroactive, oui. Rétroactive. Là, j'en reviens à cette idée fondamentale, n'est-ce pas, que le monde peut durer 7000 ans. Cette hypothèse qui a été quand même partagée pendant plusieurs centaines d'années jusqu'en plein XVIIe siècle. Cette idée est fondée à la fois sur la Bible, sur des interprétations notamment de l'Apocalypse, sur une tradition prophétique relevant de l'eschatologie byzantine, qui existe donc dès le 7e et 8e siècle, sur ensuite le pseudo-méthode, et en même temps sur l'astronomie alphonsine, dans la mesure où la période de 7000 ans est une période de cycle de la huitième sphère céleste, entre deux stations de cette huitième sphère. C'est la raison pour laquelle un assez grand nombre de personnages croyaient, à la fin du XVe siècle, que la fin du monde devait avoir lieu vers 1766, en gros au XVIIIe siècle, parce que au XVIIIe siècle devait se reproduire une station de la huitième sphère, et en même temps, on pensait que le monde avait duré 5199 ans complets entre création et la naissance du Christ.
Pour cette espèce de périodisation de l'histoire du monde, on prenait en compte les dates majeures de la Bible, le déluge par exemple.
Absolument, absolument. Ouais. Et surtout, on prenait, tout le problème était de savoir, et c'était un problème très complexe, combien il y avait d'années entre la création et la naissance du Christ. S'il y avait 5199 ans, eh bien, il restait tant d'années normalement. Et c'est un calcul, par exemple, que Christophe Colomb, entre autres personnages célèbres, ont fait à la fin du XVe siècle, n'est-ce pas? Christophe Colomb, se fondant sur les tables alphonsines, pensait qu'il y avait 5343 ans et je ne sais combien de jours entre la création d'Adam et la naissance du Christ, et par conséquent pensait que la fin du monde devait se produire au milieu, non pas du XVIIIe, mais du XVIIe siècle.
Table alphonsine, c'est en référence à Alphonse X de Castille, hein, c'est ça?
Oui, ces tables alphonsines sont les tables astronomiques qui ont été utilisées du début du XIVe au milieu du XVIe siècle dans tout l'Occident, qui ont été attribuées à Alphonse X de Castille, mais qui ont été en fait conçues et diffusées sous leur forme leur plus commune par des astronomes parisiens dans les années 1320.
Vous laissez entendre que finalement, toujours pour revenir à cette question de périodisation, les peuples, les religions, les empires sont sous le signe des planètes, entre autres. Est-ce que les grands personnages le sont aussi? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, l'horoscope de Moïse ou du Christ? Est-ce que ça a été fait?
Alors, l'horoscope de Moïse, que je sache pas exactement, quoique nous ayons un texte tout à fait remarquable qu'a édité Nicole Berriou, qui s'appelle le De Antichristo, et qui parle justement de l'influence des planètes sur quatre hommes remarquables, c'est-à-dire Adam, Moïse, le Christ et l'Antéchrist, mais de véritables horoscopes au sens technique du terme, avec position des planètes, position des maisons, etc., il en existe pour le Christ. Et effectivement, il y a toute une série d'horoscopes du Christ qui ont été faits à la fin du Moyen-Âge, et alors où, avec une symbolique naturellement très importante et des problèmes de compute et de datation très importants.
Parce qu'on peut s'arrêter un moment sur la naissance du Christ. Curieusement, elle est accompagnée de signes dans le ciel et aussi de la présence des rois mages. Donc c'est une indication.
Tout à fait. Alors ça, c'est un problème extrêmement important. Les rois mages ont été interprétés pendant une grande partie du Moyen-Âge comme étant des astrologues. Et d'ailleurs, ça n'a absolument rien d'absurde du point de vue purement historique. Quant à l'étoile des mages, naturellement, qui a été souvent interprétée comme une comète, etc., elle est tout à fait symbolique de la position de l'astrologie par rapport à la religion, c'est-à-dire que le Christ, en tant que personne divine, cela relève de la prophétie, hein, et sa venue était annoncée par la prophétie de Balaam, etc., par toute une série de prophéties qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Mais le Christ, en tant qu'homme, sa venue a pu être annoncée par les éléments de la nature et, entre autres, par une comète réputée bénéfique qui a été souvent identifiée à la fameuse étoile des mages.
Alors, à partir de quel moment l'astrologie va-t-elle essayer de prévoir la date de la fin du monde?
Oh, il est extrêmement difficile de répondre à cette question dans la mesure où les sources précises nous manquent quant au calcul des astrologues arabes, et je dirais même, puisque l'astrologie des conjonctions, c'est-à-dire l'astrologie cherchant à interpréter le présent, le passé et l'avenir en fonction du rythme des conjonctions de Saturne et de Jupiter, date de l'époque sassanide, c'est-à-dire du 6e ou 7e siècle. Alors, il est tout à fait possible que déjà, c'est même certain, que déjà dans le monde arabe, la date de la fin des temps ait été non pas fixée d'une façon claire, mais qu'il y ait eu des spéculations à ce sujet dans le monde arabe en fonction de l'astrologie. Mais c'est en gros à partir de la diffusion de l'astrologie des grandes conjonctions en Occident que les astrologues ou que les prophètes utilisant l'astrologie, parce qu'il y en a aussi, ont cherché à utiliser l'astrologie pour déterminer la fin des temps, la date de la fin des temps. Et ça, c'est assez clair, au moins du point de vue théorique, à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, notamment à partir de Roger Bacon. Et ensuite, il y a toute une littérature astrologico-eschatologique qui existe en Occident à partir du milieu du XIVe siècle jusqu'au XVIIe siècle.
Mais quand même, l'astrologie, elle a connu des fiascos sans doute retentissant, ça n'a pas fait du tort à cette pseudo-science ?
Si, ça a sûrement fait du tort. On peut citer deux exemples particulièrement célèbres. C'est celui de la conjonction de toutes les planètes dans la balance en 1186, c'est-à-dire en pleine période justement des traductions arabo-latines. Une prédiction qui a été attribuée à un certain Jean de Tolède, mais dont on ne sait pas véritablement l'auteur, annonçant des catastrophes météorologiques particulièrement graves pour cette année 1186, dans la mesure où toutes les planètes de se trouver à ce moment-là dans le signe de la balance, signe d'air, n'est-ce pas, il devait y avoir des tempêtes. Bon, l'année a été particulièrement calme. Et puis un deuxième fiasco, encore beaucoup plus retentissant, du fait de l'imprimerie notamment, c'est le fameux faux déluge de 1524, n'est-ce pas. Il devait y avoir une conjonction de plusieurs planètes dans le signe des poissons, signe d'eau, qui devait annoncer un second déluge. Les gens fabriquaient même des barques, ou commençaient à s'installer dans les parties les plus hautes des bâtiments construits, ou ont même, pour certains d'entre eux, cherché à émigrer dans des régions montagneuses pour être les derniers à être submergés par les eaux. Eh bien, l'été, naturellement, a été particulièrement sec. Et là, ça a été sans doute une sorte de jalon dans, non pas le recul de l'astrologie, mais le recul d'une certaine forme d'astrologie qui est l'astrologie des grandes conjonctions, n'est-ce pas, l'astrologie d'origine arabe, donc, qui, à ce moment-là, à partir de ce fiasco de 1524, semble, je dis bien semble, parce qu'il faudrait voir les choses de plus près, subir un certain recul du point de vue de son influence.
Vous semblez dire que cette multiplication des textes astrologico-eschatologique semble se faire un peu sous la pression populaire.
Avant la pression populaire, je dirais d'abord sous la pression de gens d'église eux-mêmes qui ont une profonde angoisse concernant l'imminence de la fin des temps. N'est-ce pas ? Ça, c'est tout à fait remarquable de voir cela dès le XIVe siècle et jusqu'en plein XVIe siècle. Ceci dit, il y a aussi des prédicateurs populaires à partir du moment où l'astrologie est suffisamment vulgarisée qui utilise, n'est-ce pas, les éléments astrologiques d'une façon très très vulgarisée pour dire que justement les signes dans le ciel, qui d'ailleurs ne sont pas forcément proprement astrologiques, mais qui sont ceux qui sont par exemple annoncés dans l'Apocalypse, ces signes dans le ciel se multiplient et donc annoncent une fin tout à fait prochaine.
Et cette vulgarisation se fait sous forme de vente d'almanachs.
Elle est antérieure à l'imprimerie. J'ai moi-même édité un texte en français qui date des années 1380-1383, du début du règne de Charles VI, qui montre déjà une vulgarisation de cette littérature astrologico-eschatologique. Ceci dit, bien évidemment, l'imprimerie a donné un coup de fouet tout à fait considérable à cette littérature astrologico-eschatologique. Et alors à ce moment-là, il y a toute une série effectivement de best-sellers, véritablement, dont le plus célèbre est la fameuse Pronosticatio de Lichtenberger, qui est d'ailleurs largement un plagiat d'un traité beaucoup plus savant fait par Paul de Middelbourg, traité à la fois astrologique, à la fois prophétique, une sorte de compilation axée largement d'ailleurs sur un programme iconographique remarquablement bien fait, permettant une lecture absolument polysémique du texte, et de l'ensemble de l'ouvrage. Et alors là, c'est un ouvrage qui a eu un succès absolument considérable jusqu'au milieu du XVIe siècle et dans tout l'Occident. C'est un succès extraordinaire de la littérature eschatologico-astrologique. Et il y en a d'autres moins importants, mais qui sont non négligeables, comme ceux d'Annus de Viterbe, de Jean de Lubeck et de tous ces gens-là. Effectivement, ce sont pas véritablement des almanachs, mais de petites prédictions de quelques folios qui sont très faciles à manier, très agréables à lire, et qui ont eu un succès tout à fait considérable au moment donc du premier âge de l'imprimerie.
Là, vous parlez des images. Il y en a une, il y a une gravure qui représente un moine en robe blanche et qui a été interprétée, cette gravure.
Oui, c'est une gravure représentant un moine, effectivement, avec un petit diable sur l'épaule, qui semble être une sorte d'esprit familier, enfin et qui a été interprété comme étant, bien sûr, Luther. Là, il y a eu d'ailleurs, de la part des astrologues italiens, hostiles à la réforme luthérienne, une manipulation. Luca Gorico, qui était un astrologue extrêmement célèbre des années 1520, a trafiqué volontairement la date de naissance de Luther, pour que cette date de naissance ait lieu, non pas en 1483, qui est la vraie date, mais en 1484, pour qu'il y ait une convergence entre cette date de naissance et la conjonction de Saturne et Jupiter dans le Scorpion en 1484, réputée particulièrement néfaste, parce qu'elle avait déjà présidé en 571 à la naissance d'un certain Mahomet. Donc vous voyez tout de suite le rapprochement entre Luther et Mahomet, tout cela ayant généré toute une littérature polémique entre partisans et adversaires de la réforme, littérature polémique à laquelle ont participé non seulement Luca Gorico, mais des gens beaucoup plus sérieux que lui à bien des égards, comme Kepler, par exemple, au début du XVIIe siècle.
Alors justement, là, vous évoquez Kepler, qui était astrologue, mais qui était aussi astronome. Est-ce que on assiste à des gestes d'élucidation de la part des astronomes pour clarifier un petit peu ce débat astrologico-eschatologique ?
De la part des astronomes, effectivement, il y a eu des efforts qui ont été faits d'abord pour dire très clairement que l'astrologie ne pouvait en aucun cas servir à déterminer la date précise de l'avènement de l'Antéchrist et de la fin des temps. Notamment, un astrologue d'origine hollandaise, installé à Carpentras, et qui a été un grand constructeur d'instruments astronomiques, notamment qui en a construit toute une série à destination du roi René, qui s'appelait Guillaume Glizoun de Viskerk, dans son traité, qui est une sorte de description d'un équatoire, c'est-à-dire d'un instrument astronomique servant à déterminer la position des planètes, dit très clairement que, pour lui, il est absolument impossible que l'astrologie puisse être considérée comme une science assez précise pour déterminer d'une façon relativement sérieuse la date précise de l'avènement de l'Antéchrist et de la fin des temps. Pour lui, c'est impossible. Alors, par la suite, les astronomes, purs et durs, je dirais, ont souvent adopté cette attitude, mais ce n'est pas du tout généralisé. Kepler, lui-même, a été tout à fait attiré par ce genre de spéculation, et je crois qu'il faut bien prendre garde de ne pas prendre cette attitude comme un esprit de faiblesse, n'est-ce pas ? L'astrologie, d'une manière générale pour Kepler, le livre de Gérard Simon l'a bien montré, n'a pas joué un rôle négatif dans sa carrière scientifique. Au contraire, elle semble avoir joué un rôle, je dirais, émulateur. Et de ce point de vue-là, il ne faudrait surtout pas, me semble-t-il, faire une sorte de diptyque entre le côté ombre et le côté lumière de Kepler. Ce serait beaucoup trop simpliste.
C'était Astrologie et fin des temps, un numéro des Chemins de la connaissance de Gérard Gromer avec l'historien Jean-Patrice Boudet, diffusé pour la première fois le 22 juillet 1992.